Actes chapitre 1, versets 10 à 11. Alors, aujourd'hui on célèbre Pâques, mais j'avais envie de parler un peu aussi de l'ascension, puisqu'on n'en parle pas souvent. Donc au verset 10, il est dit, « Et comme ils avaient les regards, on parle là des disciples, fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, évidemment c'est Jésus-Christ, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus a accepté l'humiliation de la croix. Il a accepté ce que l'homme n'aurait jamais accepté, je pense. Mais tout ça, c'était juste avant que la gloire, qu'il connaisse la gloire qu'il devait connaître. Il s'est montré... durant sa résurrection à plusieurs disciples, plus de 500 nous dit la Bible, donc 500 témoins de sa résurrection, normalement il faut 2 ou 3 témoins pour dire que c'est vrai, donc 500 et plus c'est suffisant pour nous faire croire que Jésus est bel et bien ressuscité, mais maintenant, à ce moment-là, il doit rejoindre son Père et on peut se réjouir finalement non seulement de cette croix, de la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi de son ascension et de cette gloire maintenant qu'il a là-haut dans le ciel. Et on va partager un peu cette ascension, la doctrine de l'ascension, d'abord parler un peu de cette ascension de Jésus, on va parler de l'exaltation du Christ, et puis aussi peut-être les aspects doctrinaux, alors doctrine tout de suite, mais les aspects doctrinaux pour notre vie, et vous allez voir qu'il y en a. Quand on s'intéresse à l'ascension dans les Écritures, on voit que ça a été prophétisé. Par exemple, David, dans le psaume 68:19, disait « Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons par l'homme, pour l'homme, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. » Et puis plus loin, maintenant on va dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi il est dit « Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Il nous rappelle que Jésus est mort, effectivement, qu'il est allé dans le Sheol. Si vous ne savez pas ce que c'est, venez le mardi soir, on est en train d'en parler. Il est allé dans ce séjour des morts, il a déclaré sa victoire, et puis il est remonté avec les justes, aujourd'hui ils sont dans le paradis. Mais cette ascension était déjà prophétisée dans l'Ancien Testament. David aussi en parle dans le psaume 110, par exemple, psaume de David, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » C'est repris dans Actes 2, 34 à 35, « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Aujourd'hui, le Seigneur est à la droite du Père jusqu'au moment où il reviendra et justement tous les ennemis inclineront leurs genoux devant lui. Jésus dit donc qu'il, plusieurs fois, même pendant son ministère, que non seulement il va mourir, mais il va ressusciter, mais aussi qu'il va rejoindre ensuite son Père. On voit plusieurs témoignages dans le Nouveau Testament, par exemple Marc qui dit que Jésus est enlevé au ciel et assis à la droite du Père. On voit Luc aussi qui dit que Jésus sera enlevé du monde et c'est accompli. Il le dit un peu plus tard dans Actes qu'on vient de lire que c'est accompli. Paul lui-même dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il dit un peu plus loin, Jésus est élevé dans la gloire. Il dit encore, assis à la droite de Dieu. Pierre, son témoignage, c'est de dire qu'il est, donc le Seigneur est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Si vous voulez les références, je vous les donnerai. Et puis on se souvient du pauvre Étienne quand il se fait lapider, qui dit que je voyais Jésus à la droite du Père. Donc c'est non seulement un témoignage dans la prophétie qui se sont accomplis, mais c'est aussi le témoignage de plusieurs hommes, et même visuellement. Donc Jésus est bien aujourd'hui au ciel à la droite du Père. Pour nous souvenir, l'ascension a eu 40 jours entre sa résurrection, il y a 40 jours entre la résurrection et l'ascension. 50 jours, c'est là, la Pentecôte, où le Saint-Esprit va venir. Le lieu, on pense que c'était vers Béthanie, bon, c'est peut-être pas le plus important. Si on s'intéresse un peu au déroulement, on voit que Jésus, il y a d'autres passages que cela. Jésus bénit les disciples et pendant qu'il les bénissait, il se sépara de ses disciples. Il s'est élevé, nous dit un autre passage, comme s'il était emporté par une nuée. On peut imaginer, il n'a pas disparu comme ça brutalement. Il semblerait qu'il y ait un mouvement ascendant qui est monté tranquillement vers son Père dans le ciel. Et puis il y a là une promesse de la part des anges qui disent qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Alors autant le Seigneur est monté, autant le Seigneur redescendra de la même manière. Et c'est Zacharie qui nous dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et à partir de là, ça va être terrible pour la terre puisqu'il va rendre justice. Il y a peut-être des problèmes quand on réfléchit un peu à l'ascension. Hein, pour ceux qui sont un peu cartésiens, ça a l'air d'aller contre la loi naturelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà envolé, vous. Je ne pense pas. Hein. Enfin, rassurez-moi. Alors, on pourrait se dire, bon, tout ça, c'est des histoires, mais le corps de résurrection de Jésus-Christ n'était pas le corps qu'il avait quand il était un homme, tout simplement, hein, ou comme nous. Et puis ce corps de résurrection, il semble ne plus être soumis aux lois de la nature comme nous la connaissons. Un jour, nous aussi, nous allons ressusciter et nous allons connaître ce genre de choses. Et puis surtout, il faut peut-être se souvenir qu'il est quand même Dieu. Et s'il est Dieu, les lois naturelles pour lui, c'est lui qui les a créées et en fait absolument ce qu'il veut. Donc Jésus a très bien pu enfreindre, entre guillemets, ces lois naturelles qu'il avait lui-même établies pour pouvoir monter vers son Père. Donc on est peut-être cartésien, mais moi j'accepte par la foi que Jésus peut faire tout ça. Il a créé le monde. Vous êtes capable de créer le monde, vous ? Moi, j'y arrive pas. On s'est volé avec des avions, mais pas plus. Hein. Peut-être un autre problème, dans Jean 20, 17, où il écrit, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Certains pensent que Jésus aurait fait plusieurs ascensions, espèce de va-et-vient. Je ne pense pas. Hein. Mais Jésus dit là, justement, à travers ce texte, que « Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. » auprès de mon Père. Donc, il y a eu une seule ascension de la part de Jésus-Christ. Par contre, il démontre là que la relation qu'il avait avec les disciples, et tout particulièrement avec Marie, n'est plus la même. Avant, Marie pouvait le toucher comme des êtres humains, mais là, il demande de ne plus toucher parce qu'il est glorifié. Donc, ça peut nous faire réfléchir aussi sur ce corps de gloire que nous allons avoir bientôt pour ceux qui ressusciteront. Donc, l'ascension est prouvée hein, par beaucoup de témoins, et il n'y a pas à remettre cela en question. Évidemment, ça reste toujours un acte de foi, on le croit. Mais cette ascension était aussi nécessaire pour que Christ puisse être exalté dans le ciel. Et donc, dans une deuxième partie, on voit cette entrée dans la gloire de Jésus-Christ, ou l'exaltation du Christ. On parle de l'acte de s'asseoir, c'est la cession du Christ, en fait. Hein. Elle a été prophétisée, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'achèvement, en fait, de son œuvre de rédemption. Jésus a donné sa vie sur la croix. C'était une première étape. Il est ressuscité, une deuxième étape. Et une troisième étape, c'était d'être glorifié par le Père, qui approuve, en fait, tout simplement, ce qu'il vient de faire sur la terre. Après l'humiliation de la croix, la gloire éternelle. J'imagine tous ces gens qui ont cru avoir la victoire sur Jésus quand ils l'ont crucifié. Ils se sont dit, on l'a bien eu, et on s'en est débarrassé, mais en fait... Lui, il est en gloire là-haut dans le ciel. Finalement, ils ont tout perdu. Et il est là-haut en attendant de soumettre tous ses ennemis. Alors le monde aujourd'hui dit « Dieu n'existe pas, je ne veux pas de Dieu, je suis plus fort que Dieu ». Il y en a. Mais à un moment, quand il reviendra pour cette bataille d'Armageddon, nous parle la Bible, quand il mettra tous ses ennemis devant lui pour fléchir le genou, plus personne pourra dire quoi que ce soit. Et c'est valable aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être je peux défier Dieu dans mon cœur en disant « Oh, j'ai le temps » ou « Bon, ne me parle pas, je ne veux pas entendre parler de toi », mais à un moment, soit on fléchit le genou de notre vivant, et c'est le meilleur, je crois, parce qu'on a encore l'occasion d'être pardonné, soit ça sera trop tard et on devra quand même fléchir le genou. Donc c'est juste une question de temps. Par contre, les conséquences ne sont pas les mêmes. Si je le fléchis aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Si je ne veux pas le fléchir aujourd'hui et que c'est Jésus qui l'impose, je suis séparé de lui pour l'éternité. Dans tous les cas, on fléchira ce genou devant Jésus-Christ. Donc autant le faire. Et le Seigneur nous invite. Il est suffisamment patient, nous dit Pierre, pour qu'on ait le temps d'accepter de fléchir le genou, de demander pardon pour nos péchés et de l'accepter comme notre sauveur dans notre cœur. Dans le ciel, le Christ a reçu la gloire et l'honneur, celle qu'il avait auprès du Père autrefois. Il l'a abandonnée. Hein, il était servi par les anges. On peut imaginer la gloire qu'il avait. Il a accepté de l'abandonner pour devenir un homme comme nous. Personne ne le ferait, en tout cas pas moi, mais lui, il l'a accepté. En plus, si on me disait qu'il fallait que j'aille mourir sur une croix, alors là, je dis deux fois non. Hein. Mais lui, il l'a accepté, mais il a récupéré cette gloire qu'il avait autrefois. Il a abandonné tout ça pour moi, par amour pour moi, parce qu'il m'aime, pas parce qu'il s'ennuie. Et celle qu'il avait pour devenir aussi serviteur, cette gloire qu'il avait où on le servait, c'est lui qui est devenu le serviteur. Il est mort pour les pécheurs. Il a accepté ce service. Lui qui pourrait dire, mais il n'y a que moi qui dois être servi, il a accepté de devenir le serviteur. Et si Jésus a accepté de devenir un serviteur, combien nous aussi on doit accepter d'être serviteur ? Pas toujours simple. Il a accepté l'abaissement, mais il a été couronné de gloire et d'honneur, nous dit Hébreux. L'abaissement, parfois, précède tout simplement la gloire. Et dans notre humilité, je pense aussi des fois, il y a une gloire quelque part. Il est préférable d'être humble que plein d'orgueil, parce que derrière l'humilité, il y a peut-être la victoire de certaines choses, la joie, justement, de ne pas s'enorgueillir de colère ou je ne sais pas quoi. Mais Christ a été abaissé, il l'a accepté, et ça a été sévère pour lui, mais finalement, il a été couronné de gloire et d'honneur. Et Paul dit, Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a que lui qui la mérite, cette plus haute place. Vous la méritez, vous? Vous n'avez jamais réfléchi, en fait. Hein. On ne la mérite absolument pas. Quelqu'un était sans péché, ici? Moi non plus. Donc, il n'y a que lui qui peut aller à cette place. Et Matthieu 28, 18, hein, nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Intronisation à la droite du Père. Dans Hébreux 10, 12, il est dit, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Intronisation à la droite du Père. Étienne, on l'a dit, l'avait vu, hein, il est bien assis à la droite de la majesté divine. Et Pierre, à la Pentecôte, hein, va dire aussi, « Il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. » Il n'y a donc aucun doute, Jésus, aujourd'hui, est bien à la droite du Père, tout en gloire, et en attendant qu'il revienne pour accomplir son œuvre finale, on pourrait dire. Les changements ont eu lieu, hein, le serviteur est passé de l'humilité à la gloire. Il revêt un corps de gloire, nous dit Philippiens 3, 21, et Jean l'a vu dans ce corps, hein, dans Apocalypse 1, 12 à 16. Moi, j'aime bien ce passage parce que souvent, on essaie de parler au Seigneur, à Jésus, on l'imagine comme un être humain, mais aujourd'hui, comment il est et comment Jean le décrit, hein, dans Apocalypse 1, 12 à 16, il dit « Je me retournai pour savoir quelle était la voix de qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors j'imagine le petit Jésus dans la crèche, et quand on voit la description qu'a Jean là de Jésus-Christ, ça fait peur. C'est effrayant, quelque part. Même si nous, on peut s'approcher de lui. Mais voilà la vraie personnalité de Jésus. Glorieux, totalement glorieux et à craindre, je pense. Hein. Philippiens 1, 2 nous rappelle que Jésus a eu un nom au-dessus de tout nom. Hein, qu'il est aujourd'hui au ciel aussi et qu'il est entouré d'anges qui chantent en fait ses louanges. Alors aujourd'hui, il y a une multitude d'anges qui célèbrent Dieu, mais Jésus-Christ, mais un jour nous serons à côté d'eux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé de chanter à côté d'un ange. On aura une bonne voix normalement, hein, puisque notre corps a été transformé. Là, on pourra faire des basses, des aigus, tout ce que vous voulez. Hein. On ne sera plus malade, donc ça nous aidera aussi. Mais un jour, ça sera notre quotidien. Alors, c'est peut-être pas tous les jours, mais vous avez déjà imaginé chanter à côté d'un ange? Moi, je l'ai fait tout à l'heure avec ma femme. Mais... je vais prendre des points. Mais un jour, vraiment, dans la gloire, Dieu en face de nous, Jésus-Christ à sa droite, et nous le célébrons. C'est formidable. Là où les hommes ont haï et crucifié Jésus-Christ, ben, le ciel célèbre tout simplement sa gloire, et bientôt avec nous. Jésus est donc assis à la droite de Dieu pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'il possède aujourd'hui une autorité universelle. Il a reçu l'autorité sur ce monde et sur quiconque est dans ce monde. Et bon, là où le monde semble défier Dieu, ou croit le défier, ben Christ dit non, c'est moi qui ai tout pouvoir sur ce monde et c'est moi qui décide de toutes choses. Alors on peut se poser la question pourquoi Dieu permet des fois certaines choses. N'oublions pas que Dieu ne fait pas les attentats, c'est jamais lui qui les a fait, c'est les hommes. Bien souvent, on culpabilise Dieu alors que finalement c'est les hommes, Dieu n'a jamais voulu de ça. Jamais de la vie, il n'a même pas pensé à ça. Et surtout en son nom, encore plus. Jésus, il a fait la seule œuvre utile sur cette terre. Il a fait un mort, c'était Jésus. C'est tout. Mais il était nécessaire pour que nous puissions être sauvés. Mais il n'a jamais rien fait d'autre. Donc, n'accusons pas Dieu de tous les malheurs de ce monde. C'est nous-mêmes qui sommes coupables. Et même individuellement. Tant que je n'ai pas reçu le Seigneur dans ma vie, forcément, je suis ennemi de Dieu. Et c'est triste d'être comme ça. Mais Jésus a tout pouvoir sur les anges, sur les autorités, sur les puissances célestes. Tout lui est soumis, même si on ne le voit pas aujourd'hui. Dieu, vous savez, est patient avec les gens, même avec nous. Hein. Il voudrait qu'on change des fois. Mais des fois, on dit non. C'est pareil avec le monde. Hein. Il pourrait faire ça et c'est réglé. Hein. Tout est fini. Et ça sera fini un jour. Mais il est patient. Et il voudrait que ça soit une obéissance personnelle et non pas une obéissance forcée. Dieu peut tout arrêter aujourd'hui. Il peut envoyer ses anges et ratiboiser toute la terre. C'est fini. Mais il ne le fait pas parce qu'il nous laisse le temps. Le temps de réfléchir et individuellement et je pense au niveau mondial aussi. Mais Jésus n'est pas inactif non plus, il est debout à la droite du Père, nous dit acte 7, il marche, on l'a vu tout à l'heure, au milieu des sept chandeliers d'or, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais en tout cas il est actif. La Bible nous dit qu'il intercède pour nous, il prie pour les siens. Chaque jour, Dieu prie pour moi. Ça vous réjouit ou ? Déjà c'est chouette quand les frères et sœurs prient pour moi, mais si je sais que Jésus-Christ prie pour moi, alors là, c'est tout comme réaction. Eh ben... Peut-être vous ne le saviez pas. Mais pensez demain matin, après demain matin, que Jésus intercède pour vous. Et quand on est dans le combat des fois, le Seigneur prie, hein, et là, vraiment en train de lutter pour que nous ne tombions pas, pour que l'ennemi s'éloigne, etc. Hein, il disait à ses disciples, le diable vous réclame, hein, il va vous cribler là. Il fait la même chose avec nous aujourd'hui, hein, faut pas croire. Il va faire la même chose, si on veut vraiment le servir, si on veut vraiment marcher avec lui. Mais le Seigneur prie pour nous et pour les siens. Chaque jour, il pense à moi. Et donc, quand je dis « Ah, j'ai pas de travail », Jésus intercède pour moi. « Je suis malade », Jésus intercède pour moi. C'est formidable, en fait. Donc, il sait ce qu'il m'arrive. Et non seulement il sait, mais il va même agir selon sa volonté. La Bible dit aussi qu'il est notre avocat. Hélas, nous sommes encore pécheurs et il nous arrive parfois de chuter, non pas de pratiquer le péché, parce qu'il y a bien une différence là, mais il nous arrive de chuter, hein. Des fois on n'est pas assez fort ou on ne veut pas lutter suffisamment, mais la Bible nous dit qu'il est l'avocat, c'est le même mot, hein, consolateur en fait, dans le grec, et donc si j'ai péché, je peux saisir mon avocat et je peux demander pardon. La Bible nous dit de nous repentir, évidemment, de regretter ce que l'on a fait, mais je peux saisir mon avocat et il est là pour me pardonner. Bien souvent, le diable dit, mais tu sais, ça fait 15 fois maintenant que tu demandes pardon. Tu crois vraiment que Jésus va encore te pardonner ? Pardonne encore au bout de 15 fois ? Je crois, si on est sincère, évidemment. Hein. Si on est devant lui, parce que qui a déjà réglé le problème de la colère ? Moi, je crois qu'on ne le réglera jamais. On peut l'atténuer, je pense, jusqu'à la fin de notre vie. On peut l'aborder différemment, mais s'il y a d'autres, d'autres circonstances, une guerre, on vient tuer ma femme, ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas rester là, merci, je te pardonne. Je pense que je vais avoir un petit moment de colère, mais bon. Mais voilà, le Seigneur veut nous changer, nous transformer, et on a l'occasion, si on chute justement, de pouvoir demander pardon. Et il nous relève chaque fois, si nous sommes sincères. La Bible nous dit aussi qu'il nous prépare une place quand il viendra et nous prendra avec nous. Et la Bible nous dit qu'il y a plusieurs demeures et je passerai l'éternité avec lui. Je ne sais pas où on sera exactement, ce qu'on fera exactement, mais être juste dans la présence du Seigneur, c'est suffisant pour moi. Après, on a l'éternité pour voir ce qu'on va faire. Je ne sais pas si vous imaginez l'éternité. Genre, on voit 100 ans, c'est long. Mais alors l'éternité, il y a du boulot, hein. On va pouvoir relire la Bible. Je ne sais pas si on en a encore besoin, mais bon. Donc Jésus n'est pas inactif, il travaille pour nous aujourd'hui et il est le roi d'un royaume. Alors là, il y a tout un débat aujourd'hui, mais c'est un royaume pour l'instant qui est dans le ciel, hein, bien que Jésus soit roi, mais il ne l'a pas encore imposé sur la terre, mais il le fera pendant le millénium. Il reviendra et justement quand il descendra sur le mont des Oliviers après la bataille d'Armageddon, il va imposer un royaume de 1000 ans où il va régner en tant que roi de cette terre avec les juifs et avec certains princes juifs et l'église est là quelque part, on ne sait pas très bien. Mais pendant 1000 ans, la justice sera parfaite sur la terre. Dans le psaume 2, si je me souviens bien, il est dit « Il régnera avec une verge de fer ». Ça sera la première fois que la terre va connaître ce que c'est que la justice. Ça va nous faire bizarre. Alors ne regardons pas les autres, parce que nous-mêmes, des fois, on est injustes. Ça va nous faire très bizarre de savoir ce qu'est réellement la justice de Dieu. Et dans cette justice, il ne faut pas oublier qu'il y a tout l'amour de Dieu aussi. Parce que souvent, les chrétiens disent « Ah, Jésus est plein d'amour, mais on met la justice de Dieu un peu à côté. » Non. Sans justice, il n'y a pas d'amour. Sans amour, il n'y a pas de justice. Les deux sont parfaitement liés et nécessaires l'un à l'autre. Et le monde connaîtra cette justice de Dieu. Dieu mettra sous ses pieds tous ses ennemis, hommes et Satan. Satan sera allié pendant ces 1000 ans, relâché, mais une dernière bataille et ça sera fini. Mais pendant 1000 ans, la terre va connaître quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, celui qui a été humilié, Jésus qui a été humilié, est tout simplement glorieux dans la gloire et il a tout pouvoir pour nous aider aujourd'hui. Il a le pouvoir sur le monde, mais il a le pouvoir aussi sur les chrétiens, sur l'Église, pour pouvoir nous aider dans notre quotidien. Et c'est là où je parle des aspects doctrinaux de l'ascension pour notre vie, parce qu'il y a cette réalisation prophétique, mais à la fin de la période du ministère terrestre, c'était la fin de la limitation humaine de Jésus-Christ. On a pu voir, en fait, qu'une fois qu'il est ressuscité, comment il était. Et pour moi, ça me donne une petite idée de ce que je vais vivre plus tard en tant que ressuscité aussi. C'est la fin de l'humiliation aussi de Jésus. Sa gloire, maintenant, n'est plus voilée. On ne pouvait pas comprendre tant qu'il n'était pas mort ou ressuscité et à la droite du Père. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il est venu et sa mission. Puis il a envoyé le Saint-Esprit aussi pour fonder l'Église. Parce que sans le Saint-Esprit, sans le Consolateur, personne ne serait là ce matin dans cette Église. Pas moi non plus. Une fois que Jésus est mort, ressuscité, les disciples sont allés retravailler tranquillement. Ils ont repris leur ancienne vie. Et c'est seulement quand le Saint-Esprit est venu qu'ils se sont mis à travailler et accomplir ce que Dieu voulait pour eux. Donc il n'y a aucune gloriole à se dire « Je suis un chrétien fort, je travaille pour moi, je suis pasteur. » Sans le Saint-Esprit, je ne ferai rien du tout. Et ça nous rappelle qu'on doit rester tout simplement humble. Et puis toute cette réalisation prophétique, tout ce qui est arrivé à Jésus, qui a été prophétisé mais accompli, finalement ça devrait nous rassurer aussi pour notre avenir, puisqu'il y a encore beaucoup de prophéties qui doivent se réaliser, surtout dans l'Ancien Testament par rapport au millénium et plein d'autres choses. Et en fait, si ça s'est déjà réalisé, on a la preuve. Ça veut dire que tout ce qui est à venir va aussi se réaliser. Et ça veut dire que la Bible dit que c'est vrai. La Bible dit vrai. Et ça devrait un peu réveiller les hommes de se dire que la Bible dit absolument vrai. Et elle l'a déjà démontré plus d'une fois. L'ascension de Jésus annonce aussi notre prochaine ascension au ciel. Elle marque la première entrée d'un homme ressuscité au ciel. Et nous, bientôt, nous allons le rejoindre dans le ciel. Vous êtes prêts? C'est fini. Je ne sais pas comment ça va être exactement, mais bon, j'imagine. À la voix d'un archange, alors quand on entendra un grand bruit, ce n'est pas forcément une voiture qui a foncé dans une autre, c'est un grand bruit. Et là, le Seigneur nous prendra d'un seul coup. Je ne sais pas où on sera, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera. Donc le Seigneur nous demande d'être prêts aussi. Si on est en plein péché, c'est bien dommage. Mais être prêt, on ne sait pas quand, mais être prêt. C'est l'assurance ici que nous avons une demeure dans le ciel. Je l'ai dit, il y a beaucoup de demeures, mais cette ascension, cette gloire de Jésus-Christ nous rappelle que moi, là-haut, j'ai déjà ma place, mon petit appartement, on pourrait dire, visiter, comme je dis, dans l'Apocalypse 20, surtout à 21, 22, voir un peu votre futur appartement, votre propriété privée pleine d'or, de diamants, enfin bon, bref, c'est pas ça le plus important, mais de se dire, voilà, on sera bien loti quand même. Et c'est gratuit. Plus d'impôts. Et tout ça, on ne le méritait pas. C'est ça, le pire. Ça nous rappelle aussi que nous sommes déjà quelque part ressuscités, puisque Éphésiens nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. On fait un espèce de grand écart entre la terre et le ciel, mais j'ai déjà aujourd'hui un pied dans le ciel. Je ne peux que attendre le ciel. Il n'y a pas d'autre destinée, en tout cas pour celui qui est né de nouveau, et cela devrait en fait me réconforter, me réjouir. Mais je crois que le chrétien ne se réjouit pas assez de savoir qu'il est assis dans les lieux célestes. Ça vous réjouit de savoir ça? Eh ben, pas terrible, Si vous annoncez que vous avez gagné 1 million d'euros, bon, tu me le donneras, Ça devrait nous réjouir. Ou alors c'est que c'est peut-être pas vrai dans notre cœur, ou on n'arrive peut-être pas à l'imaginer, mais c'est quand même quelque chose qui est vrai, c'est mon espérance, C'est ce que je vais vivre. Donc ça devrait en fait nous encourager, nous donner un peu de peps dans notre vie chrétienne et nous faire avancer avec plus de joie. L'ascension de Jésus produit aussi des bénédictions pour les croyants, puisqu'on a dit qu'il est à la droite du Père et il nous a accordé le salut. Je crois que c'est la bénédiction par excellence que je peux avoir aujourd'hui le salut et ne pas être écarté de Jésus-Christ pour l'éternité. Il y a ce transfert aussi, on l'a vu tout à l'heure, des croyants de l'Ancien Testament vers le paradis, c'est quelque chose qui a été fait, on en a parlé le mardi soir. Ceux qui veulent des explications, venez me voir tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en fait, on va directement dans le ciel à côté de Jésus-Christ. Chose qui ne se faisait pas de la même manière, il semblerait, avant. Donc si je pars aujourd'hui, si je devais décéder en tant que chrétien, je rejoins tout de suite, enfin mon âme rejoint le Seigneur dans le paradis, mon corps dort en attendant tout simplement la résurrection, et à un moment les deux seront à nouveau liés. Ça nous rappelle aussi la présence de Jésus-Christ. Il remplit toutes choses, nous dit la Bible. Il est avec nous et il a tout pouvoir. Tout pouvoir. Est-ce qu'on réfléchit vraiment à ça? Jésus a tout pouvoir sur la terre et il demande simplement d'en profiter. Alors, pas pour faire n'importe quoi, on est d'accord, toujours dans sa volonté. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible dans la vie, alors? J'ai pas de travail. Ça fait 3 mois. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il se moque de moi. Puis je regarde l'autre, l'autre chrétien, lui, il l'a eu tout de suite. Ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça, ou j'ai pas d'histoire, ou je ne sais pas quoi. Ou alors l'église grandit pas, ou... Il y a un tas de choses où des fois on est un petit peu frustré, mais on ne se souvient pas que Jésus a tout pouvoir sur ce monde. Et on peut en profiter. Et donc quand on est face à peut-être à des difficultés, au lieu d'essayer de se débattre toujours tout seul, hein, parce qu'on essaie de faire les choses par nous-mêmes bien souvent, oui, Jésus a tout pouvoir. J'ai déjà posé la question. J'ai déjà mis le fardeau à la croix. Est-ce que j'ai prié pour ça? Bien souvent, on le fait, mais timidement. Hein. Moi, je suis des fois un peu culotté avec le Seigneur. Je lui rappelle qu'il m'a fait une promesse. Un prof de l'institut qui m'avait appris ça. Et c'est vrai, de temps en temps, il faut rappeler à Dieu avec toute l'humilité, évidemment. Mais Seigneur, tu as promis quelque chose. Là, vous faites honneur au Seigneur, en fait. Parce que quand on dit, Seigneur, j'ai besoin d'eux, ouais. Mais quand vous dites, tu as promis quelque chose et tu vas le faire, ça veut dire, je crois que tu peux le faire et que tu vas le faire selon ta volonté, évidemment. Alors, je crois que le Seigneur est vraiment honoré. Mais il faut lui rappeler. Parce qu'en fait, c'est pour nous. C'est bénéfique pour nous, pas pour lui. Lui, il sait très bien qui il est. Ça rappelle aussi que ça suscite la foi et que cette foi va être menée tout doucement à la perfection. Jésus est vivant, il intercède pour nous. Il veut que nous pratiquions des œuvres, il veut qu'on ait un ministère, il veut qu'on se mette au travail pour lui. Mais en même temps, il veut cette sanctification, cette transformation quotidienne pour balayer un peu tout ce qui n'est pas à sa gloire, débarrasser de tous les péchés. Et pour celui qui avance, il se rend compte que finalement, débarrasser du péché, la joie grandit de plus en plus. C'est le péché qui nous attriste ou qui nous fait du mal. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais le Seigneur veut enlever toutes ces choses-là pour faire notre joie, tout simplement. Et nous, on lutte pour les garder. Hein. On se débat comme des malades pour garder ces choses. C'est seulement une fois que c'est enlevé que l'on dit « Quel bonheur !» Mais je suis débile des fois, hein. Excusez-moi le terme, mais des fois je suis bête de vouloir garder mon péché. Mais lui veut justement nous mener à cette perfection. On ne la connaîtra pas totalement sur la terre. On la connaîtra dans le ciel une fois glorifié, mais aujourd'hui, je peux y tendre. Hein, c'est pas parce que je suis chrétien depuis 20 ans, je me dis maintenant, voilà, j'ai accompli plein de choses, c'est réglé, c'est fini. J'ai plus rien à faire. C'est faux. Vous pouvez toujours aller plus loin. Et on peut toujours grandir davantage avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il veut, parce que c'est son désir pour moi. Le chrétien qui est en stand-by, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le chrétien est toujours en train d'avancer, pas de s'arrêter ou de repartir en arrière. Il devrait être toujours en train de progresser. Faites de progrès en progrès. Et puis le Seigneur a accordé aussi le Saint-Esprit et des dons spirituels. On ne va pas tous les énumérer, mais ça veut dire que chacun d'entre nous, on a quelque chose à faire pour le Seigneur. Vous avez déjà pris le temps de réfléchir à votre don, à votre implication dans l'Église. Tout ça, c'est lié à l'ascension aussi, et à la gloire de Jésus-Christ. Il veut quelque chose pour moi, et si je dis « Ah, je ne suis pas capable, je ne peux pas, gna 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 », vous dites « Jésus, tu mens ». Puisqu'il l'a dit, hein, lui, il ne se trompe pas. Donc il sait que chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire dans cette Église, travailler d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas d'être toujours devant. La prière est un exercice aussi important dans l'Église. Hein. Prier, d'ailleurs, c'est très, très important. Mais il y a une multitude de choses à faire. Il faut que je sois actif pour le Seigneur. Pas trop non plus. Et puis, nous partageons aussi son autorité sur l'univers, d'une certaine manière. Hein. Ça permet aujourd'hui de lutter, puisqu'il est dit dans Éphésiens que nous luttons contre les esprits du mal, du monde céleste. Le diable est en pleine action. On ne se bat pas contre lui. Mais on intercède pour que le Seigneur nous aide dans ce combat spirituel qui existe aujourd'hui. Le diable n'aime pas cette Église. Le diable n'aime pas les familles dans cette Église. Il veut tout dégager. Comme ça, l'Église ne fonctionne plus et comme ça, c'est réglé. Mais nous, souvent, on vient à l'Église, oh, je suis fatigué, je viens. On vient comme s'il n'y avait rien, mais il y a un combat spirituel. Et si l'Église veut grandir, il faut, sans exagérer non plus, mais il faut tenir compte de ce combat spirituel. Quand on va avancer, le diable va toujours nous décourager. Il faut lire le livre de Néhémie là, pour le séminaire de la prière. C'est exactement ça. Hein. Ils veulent construire des choses et puis l'opposition est toujours là et puis le découragement qui vient, etc. Mais nous sommes dans une lutte. Et je vais faire un peu de pub pour le mardi et le vendredi, mais c'est l'occasion de prier. C'est bien de prier chez soi, mais je pense qu'il va nous l'apprendre, prier ensemble, lutter ensemble, dans la mesure où c'est possible. Le Seigneur agrée aussi ce genre de choses. Alors je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais quand l'Église sera plus là, peut-être qu'on va regretter de ne pas être venu lutter les uns avec les autres dans la prière. Je force personne, évidemment, mais je crois que le Seigneur serait honoré si on était tous là pour pouvoir prier. Alors je sais que ce n'est pas toujours simple, mais de temps en temps, on peut faire un effort. Nous avons des armes pour lutter, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, nous dit le Corinthien. Bientôt, il est dit que nous jugerons même les anges. Alors, pas les bons anges, puisqu'il n'y a pas de punition pour eux, mais il semblerait dans Corinthiens 6, 2 à 3, que ce soit les démons. Alors, certainement, quand Jésus va revenir, il y aura plusieurs jugements, et peut-être que nous aurons une part là-dedans. Je ne sais pas si vous imaginez, juger les démons. Bon, on verra bien comment ça se passera. Hein. Mais c'est dire l'autorité que le Seigneur nous donne aussi, pas à cause de nous, mais à cause de lui, au travers de lui. Hein. Et un jour, alors là, pendant les 1000 ans, nous partageons l'autorité avec Jésus-Christ sur la terre. Autant l'Église, autant les Juifs qui sont vivants à ce moment-là. Mais l'autorité de Jésus-Christ, non seulement on sera d'accord avec, mais on la partagera. On ne sait pas très bien ce qu'on va faire pendant ces 1000 ans, mais de toute façon, on verra bien. Hein, donc on n'est pas trop pressé non plus. Donc l'ascension a aussi un impact sur notre vie actuelle et future. Ce n'est pas juste Jésus qui est monté au ciel, qui est maintenant à la droite du Père. Hein. Mais là-dedans, il y a un tas de choses qui se passent pour moi, dont je peux profiter. Il intercède, je possède cette puissance au travers de lui. Je peux lutter contre l'obscurité là qui veut s'installer. Enfin bref, je suis actif avec le Seigneur. Et tout ça, c'est grâce aussi à l'ascension et la glorification de Jésus-Christ. Finalement, l'ascension m'encourage, en tant que chrétien, à persévérer. Oui ? Un peu ? Fatigué. Hein. Pour terminer, l'ascension rappelle que Christ est à la droite du Père, dans la gloire, et j'ai envie de dire victoire, tout simplement. Victoire. Le Seigneur a remporté la plus grande des victoires sur cette terre, sur le monde du diable, etc. Il a la victoire. Et quand tout va pas bien dans notre vie, quand on se souvient de, quand les tribulations sont là, il y a une victoire là-haut. Et on va en profiter de cette victoire. Alors, finalement, les petites tribulations sur la terre, c'est pas grand-chose quand on y réfléchit vraiment bien. Même si je compatis hein, quand on souffre, mais on a une victoire au travers de Jésus-Christ. Et c'est ça, Pâques aussi. Il nous rappelle que bientôt nous vivrons avec lui et que cela aussi est possible parce que ça a été déjà démontré au travers de Jésus. Aussi, aujourd'hui, Christ est majesté dans ce ciel. On a vu sa description et peut-être que dans notre manière de l'adorer, de s'approcher de lui dans la prière, il faudrait peut-être réfléchir. Il est majesté. Je ne sais pas si vous approchez d'un roi ou d'un président de la République comme si c'était votre pote. Salut ! On s'approche bien souvent comme ça de Jésus. Que ce soit seul, dans notre prière personnelle, quand on vient à l'église, ou je ne sais pas dans quelle situation, mais souvenons-nous qu'il est majesté, glorieux, hein, et qu'il mérite tout simplement notre humilité, notre adoration, et cela pour l'éternité. En attendant que le roi revienne et démontre au monde, justement, sa gloire, nous, on doit être patients, mais je pense que ça ne va pas tarder, hein. Bientôt le Seigneur reviendra et le monde ne pourra pas dire que Jésus n'existait pas, ne pourra pas dire que Jésus n'est pas en gloire, que Dieu n'existe pas. Ils seront obligés de l'accepter. Mais par contre, ça sera dur pour eux. Mais dans tout ça, le Seigneur nous donne aussi une mission à nous. C'est d'être témoin dans ce monde. Témoin de sa mort sur la croix, témoin de sa résurrection, mais aussi témoin de cette ascension et du fait qu'il est aujourd'hui à la droite du Père, et je suis ambassadeur de Christ, et je dois annoncer justement cette bonne nouvelle, et surtout cette victoire que Jésus a remportée à la croix. Le Seigneur nous aide, et si on a l'occasion de partager ça dans nos familles, s'ils veulent bien écouter, que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, d'abord, qui est la vérité, qui est prophétique. Aucun livre dans ce monde ne peut être comparé à la Bible, parce que tu as annoncé des choses et elles se sont réalisées à la lettre. Tu as encore annoncé des choses pour l'avenir, nous attendons tout simplement leur réalisation. Nous voulons nous réjouir de la véracité de ta parole et donc de savoir que tu es bien un Dieu vivant, que tu es un Dieu qui est là-haut dans le ciel, qui nous entend, qui nous aime. Et nous voulons nous souvenir pendant cette période de Pâques de ton Fils que tu as envoyé sur la croix pour mourir pour nos péchés, mais aussi pour ressusciter, remporter cette victoire sur la mort et sur le diable. Merci parce qu'il t'a rejoint là-haut dans la gloire et il est assis à ta droite. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, il veille sur nous et nous promet beaucoup de choses pour l'avenir. Merci pour nous qui connaîtrons toutes ces choses-là, mais nous désirions tant que d'autres aujourd'hui puissent te découvrir, découvrir ton amour, découvrir tes soins, Seigneur, et qu'ils fléchissent aussi le genou devant toi avant que tu leur imposes. Fais de nous tes témoins, comme nous l'avons dit, parlons à droite et à gauche à qui veut bien entendre, mais que d'autres puissent être encore sauvés, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.